RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric
Rivière.
Ensemble, nous recevons Florian Philippot. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes président du mouvement Les Patriotes. C'est le mouvement que vous avez créé après avoir quitté ou après avoir été banni du Front National. Lors des les législatives partielles le week-end dernier, dans le Val-d'Oise et dans le territoire de Belfort, vos candidats se sont affrontés au FN sans grand succès, avec des scores lilliputiens. Vous nous direz si, malgré tout, eh bien, vous pensez pouvoir faire concurrence au FN, sur quelles idées, sur quel terrain, et comment vous allez vous y prendre. Quel espace existe-t-il pour vous? Mais en attendant, l'actualité, c'est la visite d'Emmanuel Macron en Corse pour rendre hommage au préfet Erignac, assassiné il y a 20 ans. Une visite qui se tient sous la pression des nationalistes, qui réclament non seulement l'inscription de la spécificité, la spécificité corse dans la Constitution et la co-officialité de la langue corse au même rang que la langue française. Alors, avant d'entendre le président de la République, on voudrait savoir, Frédéric, quel est votre avis sur la question corse? Est-ce que la Corse doit être traitée à part?
Non. Vous savez, moi j'ai commencé chevènementiste.
Oui.
Et j'avais rejoint Jean-Pierre Chevènement lorsqu'il avait démissionné en l'an 2000, il était ministre de l'Intérieur, justement sur la question corse.
Oui,
à l'époque, c'était les accords de Matignon. Et on voulait, le gouvernement Jospin voulait mettre la Corse en quelque sorte à part, avec un haut degré d'autonomie. Bon, bien sûr, la Corse a sa particularité, elle a sa richesse, elle a sa singularité, qui, tout simplement du fait qu'elle est une île. Donc ça induit des spécificités qui sont déjà prises en compte et qui sont une richesse, qui sont une richesse pour la France. Moi, je suis très heureux qu'il y ait une langue corse, je suis très heureux que la Corse ait parfois son histoire qui la fasse remarquer. Et en même temps, je veux dire, toute l'histoire de la Corse, c'est une longue déclaration d'amour à la France. De San Piero Corso à Charles Pasqua, en passant par Napoléon, Napoléon III et tant d'autres, les résistants de la Seconde Guerre. On voit bien qu'il y a vraiment un lien très fort et que la Corse est totalement dans la République et dans la France. Et ce que demande, moi je pense que ce qu'a traduit ce vote, mi-autonomiste, mi-séparatiste, c'est plus un manque de France. Un cri d'amour en disant « mais pourquoi vous nous laissez tomber ?»
Ouais.
On est quand même dans une région qui connaît beaucoup de problèmes de pauvreté, beaucoup plus encore que sur le continent, d'inégalités, de problèmes de formation avec un échec scolaire très lourd, de chômage, de criminalité, avec des problèmes de communautarisme qui ont été exacerbés, parfois on en parle, il y a des flambées. Et on voit une France ou un État qui s'en désintéresse depuis des années et des années.
Ce que vous voulez dire, c'est quand ça ne va pas, au fond, les électeurs se tournent vers une forme de radicalité.
Ils se tournent vers ceux qui sont les seuls à leur avoir donné le sentiment de s'occuper d'eux, en quelque sorte.
C'est un phénomène que vous avez bien connu quand vous étiez au Front National.
Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de peuple ni de nation corse.
Oui.
Donc je ne confonds pas les phénomènes régionalistes avec le sentiment, national.
Oui.
Je crois que les Corses sont très attachés à la France, qu'on fera un référendum demain.
Ils ne veulent pas de leur autonomie, la plupart des Corses.
Mais non, bien sûr, on fera un référendum demain. De toute façon, je pense qu'on n'a même pas besoin d'en faire. Il n'y a pas de raison. Il y aurait un très fort attachement à la France. Et bien sûr, non, pas de co-officialité. Qu'on fasse vivre la langue corse, c'est une richesse, comme d'autres langues régionales en France. Mais la langue de la République, c'est le français. Pas d'autonomie particulière. Et même, je crois qu'on devrait respecter le référendum qui avait eu lieu en Corse en 2003, et où les Corses, malheureusement, ça n'a pas été respecté, hein, où les Corses étaient attachés à leur département, avaient montré leur attachement aux deux départements. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'à chaque fois que la Corse, qu'on parle de Corse ou qu'on donne le sentiment au plus haut niveau de l'État de s'intéresser à la Corse, on répond institution. Et en fait, on fait le jeu de ces séparatistes. C'est pas ce que demandent les Corses. Les Corses, ils demandent pas ce qu'on mette la Corse dans la Constitution. Et moi, je ne souhaite pas qu'on mette la Corse dans la Constitution. Ça serait la mettre à part et peut-être la voir dériver progressivement. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'occupe de leur île, de l'avenir de leurs enfants, sachant qu'il y a une forte communauté corse, d'ailleurs, partout sur le continent et même dans le monde. et qu'on s'occupe de leurs problèmes concrets. Et si la France fait cela, alors vous verrez que les régionalistes vont se dégonfler à toute vitesse.
Alors
il n'en restera quasiment plus rien.
On saura demain ce que propose Emmanuel Macron en Corse, puisque c'est demain qu'il prononcera le discours qui est très attendu. Mais aujourd'hui, à l'occasion de la cérémonie d'hommage au préfet Erignac, assassiné il y a 20 ans, il a esquissé, le président de la République, une ligne esquissée, hein, qui semble être plutôt celle de la fermeté. On va l'écouter, puis vous nous direz ce que vous en pensez.
Le préfet Erignac savait qu'il venait en Corse pour dissiper un climat de confusion et d'incertitude. 20 ans plus tard, la République doit conserver cette ambition de ménager à la Corse un avenir qui soit à la hauteur de ses espérances, sans transiger avec les requêtes qui la feraient sortir du giron républicain.
Voilà, pas de sortie du giron républicain, alors c'est... On peut considérer que c'est un propos un peu vague pour l'instant, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble à de la fermeté avec cette notion de genre républicain qui puisse vous convenir ?
C'est trop flou. Heureusement qu'il n'a pas dit l'inverse, mais ça reste beaucoup trop vague. Est-ce qu'il va mettre oui ou non la Corse et donc dans la Constitution et donc céder oui ou non aux séparatistes ? Ça, c'est une vraie question concrète.
Vous voulez dire la spécificité corse inscrite dans la Constitution ?
Oui, l'apparition même de la Corse dans la Constitution. Est-ce que il va accepter la co-officialité ou pas ? Apparemment, non. Tant mieux. Est-ce qu'il va s'intéresser aux problèmes, prendre à bras-le-corps les problèmes concrets dont je vous parlais ? Service public, pauvreté, criminalité, formation, échec scolaire, etc. Ça, c'est un vrai sujet. Et malheureusement, c'est sur cela qu'il devrait plutôt se concentrer. Maintenant, il a, vous voyez, il y a toujours un problème, c'est le « et en même temps ». Et en même temps, macroniste. Le président dit « moi, je veux bien être... » avec messieurs Simeoni et Talamoni, les deux chefs en quelque sorte de l'exécutif et du délibératif corse, à condition qu'il y ait le drapeau français dans la salle. Oui, fort heureusement qu'il a cette exigence. Sauf que quand sa ministre, Madame Jacqueline Gourault, rattachée au ministre de l'Intérieur, y est allée il y a quelques semaines, dans le même bureau, on la voyait sur des photos AFP, hilar, entourée de messieurs Talamoni et Simeoni. Derrière, on voyait le drapeau corse et le drapeau européen, on ne voyait pas de drapeau français. Alors pourquoi la ministre, elle, pourrait y aller et n'exigerait pas qu'il y ait le drapeau français ? Alors que le président de la République exigerait. Là, il y a une contradiction, ce qui prouve que c'est plutôt de la communication qu'une vraie exigence républicaine. Vous voyez, ça me pose le problème. Et puis, je vais vous dire un problème de fond. Monsieur Macron ne devrait pas accepter de rencontrer Monsieur Talamoni. Monsieur Simeoni, pourquoi pas ? Mais Talamoni, non, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, nous célébrons les 20 ans de l'assassinat du préfet Erignac. C'était le 6 février 1998, assassiné par des séparatistes. Et M. Talamoni a snobé cette cérémonie, il n'y est pas allé. Il a déclaré par ailleurs qu'il condamnait l'acte, mais pas les auteurs. Eh bien, je suis désolé, c'est un propos ignoble, c'est un propos indigne.
Parce que c'était un acte contre la République.
Mais surtout qui a coûté la vie à un homme.
Oui, mais...
Un homme
mais
qui a meurtri une famille.
Oui, bien sûr.
Et qui c'est un assassinat.
Oui.
Voilà. Et donc le président de la République...
On assassinait aussi la République, ce que je veux dire.
Exactement, en plus. Le président de la République ne devrait pas honorer de sa présence, malgré tout, ce rendez-vous en présence de M. Talamoni et n'aurait pas dû accepter. Par ailleurs, M. Talamoni ne cesse de l'humilier. Quand j'entends Talamoni dire « Oui, d'accord, on va mettre le drapeau français parce que quand on reçoit un chef d'État, il est de coutume de mettre le drapeau du pays », c'est insupportable. C'est de la moquerie permanente. Et jusqu'où va-t-on accepter ? Je veux dire, les Corses n'ont pas voté pour cela. Moi, j'en suis absolument persuadé. Ils n'ont pas voté pour cela. Ils sont trop attachés à la France et à la République.
Alors au-delà de la Corse, hein, on sent en France une résistance des territoires au pouvoir central. On voit émerger des présidents de régions qui deviennent de plus en plus girondins, on va dire. Comment vous analysez cette situation, ces paris contre la province ? Est-ce que vous considérez qu'il y a ce retour
on voit émerger depuis la décentralisation et puis depuis quelques temps une sorte de montée des roi-clés locaux, un retour des féodalités locales. Moi, je l'ai vu, je suis élu dans la région Grand Est. J'ai vu que le président du conseil régional se faisait ensuite appeler président de région. Et que il ne lui aurait pas déplu de se faire nommer gouverneur, même a-t-on appris dans un discours, vous voyez, à l'américaine, comme un gouverneur d'État, mais sauf que là-bas c'est un État fédéral, avec des États fédérés, ce qui n'est pas du tout le cas de la France, Dieu merci. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une faiblesse de l'État, c'est tout. Il y a une faiblesse de l'État qui est grignotée par l'Union européenne et qui a été grignotée par la décentralisation, mais sauf que moi je veux y apporter une réponse. Vous savez, la France, ça, on peut remonter très loin, hein, peut-être Louis XI. encore avant, Philippe le Bel, la France s'est construite par son État. La nation et l'État ont toujours marché ensemble, et en France, et De Gaulle a de très belles phrases là-dessus, quand l'État s'affaiblit, la nation française, qui est une nation diverse, qui est une nation très politique, risque de perdre son unité. Et on risque à chaque instant de voir les féodalités remonter, reprendre du poil de la bête. Ce qui coûte d'ailleurs très cher aux contribuables au passage, parce que toutes ces féodalités veulent en montrer davantage et s'achètent des agences de communication, etc. Et tout ça, ça coûte en plus.
Oui, mais vous le dites, c'est pas nouveau. Ça remonte.
Pourquoi
maintenant est nouveau, est-ce que c'est le contre-pouvoir vertical, on va dire la verticalité d'Emmanuel Macron?
Non. Macron n'a aucun pouvoir.
Non.
Macron n'a aucun pouvoir. Il n'a même pas été capable d'interdire un simple herbicide dans son propre pays, le Roundup avec l'affaire du glyphosate. Le président de la République ne peut même plus interdire un herbicide parce que c'est la Commission européenne qui décide. En fait, on est grignoté parce que l'État ne maîtrise ni la monnaie, ni les frontières, ni le budget, ni les lois qui ne sont plus souveraines par rapport aux droits européens, etc. Il est grignoté par l'Union européenne, par les technocrates. Il est grignoté par le pouvoir financier, ça va souvent ensemble. Hein. Et puis, il est grignoté parce qu'il a lui-même donné beaucoup de pouvoir à des collectivités locales qui n'en ont pas fait forcément grand-chose, ou en tout cas qui en ont fait parfois quelque chose, mais à un coût encore plus élevé qu'avant. Donc, il faut réinstaurer, au contraire, un État-nation. Ça ne veut pas dire qu'il soit centralisé à Paris, surtout pas. Il doit être déconcentré, il doit être dans les territoires. Mais l'État en France, c'est important. Et aux patriotes, nous sommes attachés à un État fort, à un État démocratique, où il y ait de la proportionnelle, où il y ait des référendums, où il y ait même un référendum d'initiative populaire qui soit créé dans la Constitution pour faire respirer cette démocratie moderne, mais où il y ait un État qui soit souverain. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'on en reparlera, mais c'est pour ça que nous sommes pour la sortie de l'Union européenne. Sans tergiverser, nous sommes pour le Frexit.
Alors, on va évoquer les législatives partielles. On en parlait au tout début, enfin, on y faisait allusion, Roselyne, au début de cette émission. À Belfort, donc, votre candidate Sophie Montel a obtenu 2%. Le candidat du Front National, 7,5%. Dans le Val-d'Oise, votre candidat, 1,6%, contre 10% au candidat du FN. Nicolas Bay, le vice-président du Front National, estime, je le cite, que ces résultats montrent que les patriotes n'ont aucune existence politique. C'est une analyse rapide à vos yeux?
Et donc, si le Front National en est venu à devoir se comparer à un mouvement politique à 4 mois d'existence, dont la notoriété reste à construire, parce que je ne suis pas naïf, vous savez, il n'y a pas eu de grande campagne nationale, donc beaucoup de Français ne connaissent pas encore l'existence même des patriotes.
Ouais.
Mais je pensais qu'ils devaient se comparer à Macron, puisqu'ils seraient soi-disant l'opposition à Macron. Bon, non, leurs résultats, eux, sont en chute libre. Ça, c'est une certitude. Ils sont passés de 18 à 7% en quelques mois. Nous construisons. Bien sûr que les résultats sont modestes. Je ne vais pas vous dire, c'est formidable, ce sont des scores très élevés. Ce sont des scores très modestes. Mais je vous signale que, par exemple, à Belfort, on a fait à peine 0,5 points de moins que le Parti Socialiste. On a fait plus que des partis politiques qui ont 10 ans d'âge, 15 ans d'âge, parfois même beaucoup plus. Et nous avons ce défi de la notoriété, de nous faire connaître. Ça viendra surtout aux européennes, faut pas se leurrer.
Oui.
Faut
de
la... Vous, personnellement, vous n'avez pas un gros déficit de notoriété.
Oui, mais moi, vous savez, parfois, ce qu'on
mais
me dit...
Mais peut-être que
ce qu'on me dit
vous
encore...
êtes encore trop associé au Front National.
Non, mais ça, c'est sûr, on me l'a dit encore aujourd'hui, tout à l'heure. On me dit, ah, c'est bien que vous ayez quitté le Front National. Et je sais que vous allez créer un parti politique, vous le faites quand? Voilà. Bien sûr, il n'y a pas eu de grande campagne nationale. Donc c'est à ce moment-là qu'on installe un mouvement. Et puis il y aura, vous savez, on n'a même pas encore fait notre congrès de lancement. Vous voyez, on a été candidat alors qu'on n'avait même pas encore fait notre congrès de lancement. Et il aura lieu le 18 février à Arras. Donc le dimanche, là, dans 15 jours. Chacun est encore libre de s'inscrire, d'ailleurs, sur notre site internet. Mmh. Et ça sera un grand moment où on va se lancer avec une organisation moderne, démocratique. Et on veut montrer, c'est pour ça qu'on tenait à avoir ces candidates présentes déjà, Sophie Montel et Denise Cornet au partiel. On veut offrir la possibilité d'un patriotisme moderne.
Alors,
et crédible.
Justement,
voilà, c'est ça qui manque dans la vie politique.
Quelle est votre
française.
Offre politique entre, dans le fond, bon, la droite qui reprend quand même des couleurs, on l'a vu, au partiel, et qui bénéficie des électeurs, ipso facto, des électeurs du Front National qui sont partis chez les Républicains, Dupont-Aignan, Nicolas Dupont-Aignan, qui grignote pas mal aussi du Front National, et qui commence à avoir un petit pactole. Quel espace pour vous, quelle offre politique vous proposez?
Je vais vous répondre très simplement. Moi, je ne pars pas d'un espace politique pour définir un projet. C'est peut-être ce qui nous singularise. Je sais que je n'entends en ce moment dans le commentaire politique français, je n'entends que des responsables, des chefs de parti dire par les boutiques, parler accord de boutique, parler déjà alliance pour les européennes dans 17 mois. Et le projet, on n'en parle plus jamais. Ils veulent s'allier avec on ne sait qui, peut-être l'union des droites, comme si ça avait un sens, pour faire on ne sait quoi. Un projet qui est complètement fade et... Moi, je parle d'un projet avec sincérité, voilà. Je mise sur une valeur qui est peut-être un peu oubliée en politique,
oui, c'est la sincérité. Il y a quoi dans la boîte?
Notre projet, c'est l'idée d'un patriotisme moderne. Ça veut dire que nous sommes attachés d'abord à une France libre, parce que sans liberté, sans indépendance nationale, on ne fait rien. Donc c'est pour cela que nous voulons retrouver notre indépendance nationale par le Frexit. C'est un préalable. Ensuite, nous avons un projet complet. Notre projet, ça n'est pas du tout que le Frexit. Moi, vous le savez, je suis, par exemple, en matière régalienne, je pense que la politique d'immigration massive, de communautarisme et d'avancée du fondamentalisme islamiste est un drame. Et qu'il faut y mettre évidemment de l'ordre et des restrictions fortes.
Bon, ben ça, c'est le FN.
Mais c'est pas le FN. Le FN peut-être le dit, mais je suis désolé, quand le FN nous explique qu'on va faire tout ça dans le cadre de l'Union européenne, qu'il nous explique comment, sans frontières, avec le juge européen. Regardez hier la CEDH. C'est un autre juge européen. La CEDH a condamné la France parce que la France avait renvoyé un terroriste islamiste algérien dans son propre pays. On a été condamné pour ça. Donc vous voyez qu'on ne peut même pas bouger le petit doigt dans cette espèce de corset supranational. Donc c'est pour ça qu'il faut le retrouver. En matière économique, nous sommes favorables à un patriotisme économique et un patriotisme social en disant, écoutez, les pays qui fonctionnent dans le monde sont des pays qui se protègent un minimum de la mondialisation sauvage, ce sont des pays qui aident leurs PME nationales, ce que nous voulons faire, et nous avons cet espoir de pouvoir le faire, bien sûr, là aussi, en récupérant les instruments de notre souveraineté, une monnaie nationale, une nouvelle monnaie nationale, la capacité de pouvoir faire du protectionnisme, et tout le reste. Et puis nous avons la volonté de montrer que le patriotisme n'est pas forcément ringard. Et rien ne lui est interdit. Moi je veux, et nous parlons d'écologie, je voudrais qu'on puisse interdire demain le glyphosate ou les OGM. Je voudrais qu'on puisse investir dans l'énergie propre.
Non mais on comprend, finalement, lui, vous n'avez pas varié. C'est ça. Vous n'avez pas varié. Eux, au FN, ils ont décroché. Mais
C'est un peu plus compliqué que ça, si vous me permettez. Hein. D'abord, moi, effectivement, j'ai pas l'habitude de varier dans mes convictions, même si je m'ouvre tous les jours à un nouveau sujet. Moi, je lis, je m'intéresse, je rencontre des gens. Alors, l'écologie, j'y étais moins sensible il y a 5 ans. Et puis, j'ai vu tous ces scandales alimentaires, j'ai vu la ferme des 1000 vaches, j'ai vu ces horreurs du glyphosate et l'incapacité à cause des lobbies à bouger. Eh bien, je vous assure que très sincèrement, c'est un sujet maintenant qui me semble, mais absolument indispensable. La protection animale aussi, d'ailleurs. Nous sommes le grand mouvement de la protection animale. Et je crois que nous avons des choses à dire sur les services publics. J'ai visité un EHPAD en Isère samedi dernier. J'ai vu les personnels soignants, le directeur de l'établissement. Je peux vous dire que c'est indigne et que là, il y a vraiment des emplois de l'avenir. Les emplois liés au grand vieillissement, à la dépendance, c'est indigne de laisser aujourd'hui les services publics du vieillissement, notamment, se dégrader à cette vitesse. Il faut s'en saisir.
Mais d'un mot, puisque
vous dites... l'autre problème du Front National... Et on trouve le même problème, je dirais, parallèle à la France insoumise, c'est que ce sont deux cul-de-sac. Tout le monde sait aujourd'hui que ces partis n'arriveront pas au pouvoir et que c'est pas avec les cul-de-sac d'extrême gauche et d'extrême droite qu'on fera triompher le patriotisme. Bah écoutez, moi je sais pas où ça va nous mener.
Oui.
Ce que je vous dis, c'est qu'on le fait avec sincérité. Nous avons pas mal d'élus qui nous ont rejoints, je les en remercie tous les jours. Il y a pas mal de monde qui vient. On essaie de proposer, de se dire voilà, on veut une France libre, grande. Oui. Rayonnante, juste, qui laisse pas des gens sur le bord du chemin, chez elle, généreuse, pas la France fermée, mais une France qui soit responsable, mais généreuse. Et ce patriotisme moderne, je suis sûr qu'il est majoritaire dans la population française, c'est tout.
Quand vous dites une France pas fermée, qu'est-ce que vous entendez par là?
Ça veut dire que, par exemple, en matière sociétale, moi je suis.
Ah oui, vous parlez pas des frontières.
Moi je remets pas en cause le mariage gay.
Oui. Ça, Marine Le Pen avait dit qu'elle ne le remettait pas en cause non plus.
Ah si, dans son programme officiel, elle abroge la loi, encore aujourd'hui. Ils abrogent la loi Taubira.
Au moment de l'élection présidentielle, elle avait dit qu'il n'était pas question de le remettre en cause.
Si, si. Ah si, si, je peux vous dire, c'était dans le programme.
Bon, c'est pas le souvenir que j'en ai.
Bah, c'est un des 144 engagements.
D'accord, ouais.
Vous le retrouverez facilement.
Des fois, entre l'écrit et l'oral, il y a comme ça des variations.
C'est toujours leur programme. Je crois pas qu'elle vous ait dit ça, non. Ça aurait marqué.
D'un mot, même si ça va être difficile d'y répondre, mais puisqu'on a bien compris que pour vous, la clé, c'est la souveraineté retrouvée.
Non, mais il faut de la crédibilité.
Oui.
Enfin, je veux dire, attendez,
laissez-moi. La souveraineté.
La votre question précédente était tellement ouverte que j'ai envie de dire plein de choses. Mais
la question. Bon, attendez, de toute façon. Non, mais on a plus. On arrive à la fin de la première partie. J'ai juste le temps de vous dire ça et d'annoncer un petit point sur l'actualité. Puis je vous poserai la question sur l'Europe juste après.
Très bien.
À tout de suite.
Deuxième partie.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique sur France 24 et RFI avec Frédéric Rivière. Nous recevons donc Florian Philippot, président du mouvement Les Patriotes. Donc Frédéric, vous vouliez poser une question, vous n'avez pas pu finir.
On n'a pas eu le temps.
À la fin de cette première partie.
Puisque donc on a bien compris que votre préambule, votre raisonnement, c'est que il faut retrouver une pleine souveraineté. Le Royaume-Uni, lui, l'a fait. Les citoyens ont voté pour la sortie de l'Union européenne. Il y a aujourd'hui des études conduites par le gouvernement qui estime, le gouvernement du Royaume-Uni qui estime que ça pourrait coûter entre 5 et 8 points de PIB selon le scénario qui sera finalement retenu. Est-ce que vous avez fait des études sur l'impact économique des mesures que vous proposez, c'est-à-dire au fond quand même de sortir de l'Union européenne?
Les mêmes études prédisaient avant le vote que le Royaume-Uni allait être en récession en 2016, l'année du vote, ce qui n'est pas du tout ce qui s'est produit. Et les mêmes, piteusement, ont dû venir quelques mois plus tard devant les caméras de télévision en disant « on s'est trompé ». Bon, ils ne se sont pas trompés, ils ont essayé d'influencer les électeurs, mais ça n'a pas marché. Donc je ne porte aucun crédit à ces études qui sont toujours liées aux mêmes officines et qui vont toujours dans le même sens. Moi, ce que je vois, c'est un pays où le chômage reste stable à 4,2%. On en rêve en France, qui voit son déficit commercial...
Avec un système d'emploi précaire aussi beaucoup plus développé qu'en France.
Bon, enfin, on va bientôt...
Les contrats zéro heure, par exemple.
Je veux dire, on va bientôt les rattraper. Hein. Oui. Entre la loi travail, ce qu'ils veulent faire dans la fonction publique et tout le reste.
Enfin, un contrat de travail qui vous assure un volume de travail équivalent à zéro minimum, on ne peut pas dire que l'engagement de l'entreprise soit très fort.
Je ne suis pas du tout pour copier tout ce qui se fait dans le monde anglo-saxon, mais en tout cas, sur l'évolution, il n'y a pas de chômage lié au Brexit, au contraire. Leur déficit commercial se réduit, notamment la France, qui avait un de ses plus gros, peut-être même le plus gros excédent commercial avec le Royaume-Uni, l'a vu fondre. Donc le Royaume-Uni est en train de gagner des parts sur le commerce français. Ils vont chaque année économiser 8 à 9 milliards par an, parce que ça on ne le dit jamais, mais la différence entre ce qu'on donne à l'Union européenne et ce qu'on en reçoit, ouais, y compris pour la France, c'est quasiment 10 milliards par an. Ils vont les économiser, ils pourront les mettre ailleurs utilement pour la population britannique. Et puis ils sont libres.
Puis ils ont une place financière qui n'a rien à voir avec...
Ah oui, mais soi-disant que cette place financière, elle devait disparaître après le Brexit, et c'est pas du tout ce qui se passe.
Oui.
Donc, bah oui, mais ça, c'est un de leurs avantages. Nous, on a d'autres avantages.
Alors là où vous vous êtes peut-être trompé aussi à un moment, c'est que vous avez vu que la croissance s'établit à 1,9, donc en 2017, c'est le meilleur chiffre depuis 6 ans. Est-ce que ce n'est pas la preuve que tout ce que vous reprochiez, dans le fond, à François Hollande et à Emmanuel Macron, a finalement donné des résultats? Ce que vous critiquiez pendant des années
je crains que ce chiffre soit pas du tout lié ni à Hollande ni à Macron. Je pense que c'était une donnée internationale mondiale.
Oui, c'est multifactoriel, je suis d'accord.
Oui, mais d'ailleurs, on a plutôt beaucoup moins profité que d'autres, parce que la croissance, ça va augmenter partout. Et je crois qu'on est déjà malheureusement en fin de cycle. Donc on aura profité un petit peu de la fin de cycle de la montée de la croissance, puis ça va se retourner. Et là, il y a un indicateur très inquiétant en ce moment, qui est la montée de l'euro. L'euro a réatteint les 1,25 $, ce qui est très mauvais. On avait bénéficié d'un euro faible pendant longtemps, y compris d'ailleurs du pétrole faible. C'était le principal facteur d'un peu plus de croissance. Je ne dis pas de croissance, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit une formidable croissance, mais un peu plus. Là, on va revoir de nouveau les grands inconvénients de cette monnaie unique. Par nature, quelle que soit sa valeur, elle n'est pas adaptée à la France. Mais en plus, quand elle est forte, quand elle est trop surévaluée, elle est encore moins adaptée à la France. Et donc, elle nous détruit les emplois, elle nous détruit de l'industrie. Alors qu'une nouvelle monnaie nationale pourrait en créer. Et ça, il va falloir l'expliquer aux Français. Et je finis de répondre d'ailleurs sur le Royaume-Uni. Ils ont retrouvé surtout la liberté. Enfin, c'est extraordinaire. Ils sont en train de négocier des accords commerciaux librement avec le monde entier. Librement. Nous, on subit le CETA avec le bœuf aux hormones canadien qui va venir demain dans nos assiettes. Alors, le ministre de l'Agriculture français nous a dit c'est pas grave, on va l'indiquer sur les emballages, quoi. Enfin, on en est là. C'est une dégradation même de la qualité de ce qu'on mange parce que nous ne sommes plus libres. Je parle du glyphosate, des OGM. Mmh. C'est un exemple, mais on pourrait parler de l'immigration. Madame May, Premier ministre britannique, a dit on va diviser par 3 l'immigration légale. Pensez-vous qu'on puisse le faire en France? Absolument pas. Elle ne cesse d'augmenter et on ne peut pas le faire. Nous n'avons pas les instruments, les outils d'un État régalien pour le faire. Eux, ils pourront le faire. Ça, c'est vrai dans tous les domaines. Et cette liberté, ça n'a pas de prix parce que c'est l'autre nom de la démocratie. Nous ne sommes plus en démocratie. On peut s'amuser. Ce qui fait que les responsables politiques, je vous disais, ils parlent boutique, ils parlent alliance tout le temps, parce qu'en fait, ils n'ont plus que de ça à parler. Quand on renonce à exercer le pouvoir, ben, on parle du reste. Alors, on peut parler de la météo, on peut parler des vaccins, on peut parler pendant des mois et des mois des 80 km/h ou des compteurs Linky. Chaque sujet, on peut le traiter, il n'y a pas de souci, mais ce ne sont pas des sujets fondamentaux pour la vie des Français.
Et ce sont les
sujets dont s'emparent les responsables politiques français parce qu'ils n'ont plus rien à dire, parce qu'ils ont renoncé à exercer le pouvoir.
Alors, puisqu'on est dans l'économie, paradoxe, l'économie mondiale va bien, mais les bourses chutent, les banques centrales resserrent les conditions de crédit, mais comme les bourses sont montées trop, il y a eu une correction. Est-ce que tout de même ça vous inquiète ce qui se passe là?
Ben, on va regarder, je pense qu'il y a une correction, effectivement. Est-on à la veille d'un vrai risque financier?
Oui.
Certains le disent. Et c'est quelque chose qu'on dit d'ailleurs depuis des mois et des mois, parce qu'il y a des bulles spéculatives qui se sont créées à nouveau. Il y avait cette affaire du Bitcoin et il y en a d'autres. Il est certain que, de toute façon, laisser la finance gouverner nos vies, indirectement, en tout cas nos économies, nos vies, nos emplois, l'avenir des générations qui viennent, c'est une folie. Mmh. Et que la crise de 2008, de ce point de vue, n'a servi à rien. Aucune leçon n'a été tirée.
Aujourd'hui, comment lutter contre le capitalisme aujourd'hui? Alors, à moins d'inventer un capitalisme à visage humain, ce serait quoi? Parce
qu'on
ne peut pas lutter contre quelque chose de toute façon qui est inéluctable.
Enfin, c'est-à-dire que je suis pas anti-capitaliste. Je pense qu'il n'y a pas d'autre. Mais je suis. Il n'y a pas d'autre modèle. Mais je pense qu'il doit être modéré. Qu'il doit être. Je suis assez colbertiste, si vous voulez, mais adapté au 21e siècle. Mais je pense que la puissance publique, bien sûr, doit s'impliquer dans l'économie.
Davantage.
Bien sûr. Mmh. Elle doit s'impliquer, non pas pour être tatillonne et embêter le créateur d'entreprise, l'innovateur, comme parfois elle le fait, parce qu'elle renonce à faire le reste, en fait. Donc elle fait le plus désagréable et elle ne fait pas l'efficace. Il faut faire exactement l'inverse. Le secteur privé doit être encouragé, les créateurs doivent être encouragés, les innovateurs aussi. Mais, par exemple, quand je vois que nous renonçons sur Alstom, nous renonçons sur les chantiers navals de Saint-Nazaire, quand nous renonçons sur des grands secteurs, en ce moment, on est en train de se faire complètement laminer sur le numérique, les nanotechnologies, la robotisation. On investit à peu près 1/30 de ce qu'il faudrait investir si on veut être une puissance qui compte là-dedans et ne pas être dépendant de l'étranger. L'intelligence artificielle, il y a des grandes études là-dessus. C'est passionnant. Vous voyez, si on avait un État stratège, il s'emparerait
à
10, 15, 20 ans de ces sujets-là en disant « ce sont des sujets stratégiques, il en va même de notre indépendance nationale, il en va de l'emploi aussi, puisque ça va créer des millions d'emplois, on doit s'en emparer ». Bon, non, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on a une espèce de débat politique qui est tellement au ras des pâquerettes. Enfin, je suis désolé, mais il est même affligeant. Et je comprends pourquoi les Français sont dégoûtés de la politique en ce moment. On les voit tous. Les Français ne veulent plus s'y intéresser. Ils sont dégoûtés comme jamais, ce qui est quand même terrible dans un pays qui est un grand pays politique. Mais ils sont dégoûtés parce que quand ils allument la télévision ou la radio, bah, ils voient des hommes politiques qui parlent de rien et qui ne parlent pas des grands sujets qui sont pourtant indispensables.
Alors, toutes ces idées, tout ce que vous nous dites, c'est ce que vous allez essayer de porter précisément dans le débat public. Dans les mois et les années qui viennent, sans doute. Comment vous allez essayer de le faire vivre, tout ça? Vous allez devenir un parti qui prend de l'importance, qui a des candidats à toutes les élections? La première échéance, la première étape, c'est quoi? Ce sont les élections européennes pour vous?
Oui, incontestablement. Le premier grand rendez-vous, ce seront les élections européennes. Et ce sera un vrai grand rendez-vous parce qu'il y aura le retour des listes nationales, ce qui est vraiment une bonne chose, parce que ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Que ce qu'on voyait auparavant, les listes régionales, et on aura un vrai grand débat. Et puis moi, on va s'adresser aux patriotes avec nos élus parlementaires, élus locaux, on va s'adresser avec nos volontaires sur le terrain à tout le monde, qu'il soit de gauche, qu'il soit du centre, qu'il soit de droite, peu importe. Ce qui compte, c'est d'avoir la France à cœur, c'est tout. Vous voyez, on ne met pas, nous, de critères, on n'est pas sectaire. Et aux européennes, on va s'ouvrir à tous les patriotes de gauche et de droite. Je ne serai pas là, moi, dans les accords de boutique ou je ne sais quoi. On va s'ouvrir à tout le monde et on dira, attendez, si vous voulez un autre avenir pour la France, bah, il faut vraiment choisir une autre politique et il faut la choisir en étant susceptible d'avoir un mouvement crédible pour la porter.
Vous, c'est ça, votre slogan, c'est le souverainisme crédible.
Non, ça, c'est votre slogan.
Mais... je vous le propose.
Oui, vous le proposez. Mais souverainisme, oui, nous sommes souverainistes, mais je trouve ça très...
Et est-ce que vous êtes crédible? C'est la deuxième partie de la...
Ça, encore une fois, on y travaille. En tout cas, on travaille. On travaille, nous avons déjà fait, vous voyez, on n'a que 4 mois d'existence, on a déjà fait 2 grands colloques européens.
Vous avez combien d'adhérents ?
Nous avons 6500 adhérents aujourd'hui. Nous avons notre congrès de lancement dans quelques jours, je le disais, à Arras le 18 février. On travaille, on produit, on fait des choses, des analyses. Et je crois qu'on n'y arrive pas sans travailler. Ça, c'est vrai dans tous les secteurs de la vie, hein, et depuis son plus jeune âge. Donc nous, on croit beaucoup à la valeur travail, de ce point de vue-là. Et c'est comme ça qu'on créera une relation de confiance avec les Français. Mais surtout, on s'adresse à tout le monde. Je
quand
pense
vous dites
que
nous,
c'est fatigant,
on travaille.
C'est fatigant de parler de droite.
Florian Philippot, vous dites nous, en tout cas, on travaille. Ça veut dire qu'il y en a qui ne travaillent pas dans les partis.
Mais je pense que.
Et peut-être dans les partis que vous connaissez bien, pour dire les choses.
Oui, j'ai quitté un parti politique où j'étais à peu près. Enfin, je suis désolé, mais il n'y a pas grand monde qui travaillait parmi les cadres. Je ne confonds jamais avec les électeurs et les militants du Front National, dont beaucoup sont venus parce qu'ils y croyaient.
Marine Le Pen, elle travaillait.
Et comme eux, j'ai considéré que c'était un gâchis. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup d'électeurs qui viennent chez nous. Il y a des électeurs qui viennent d'ailleurs, mais il y a aussi des électeurs qui viennent du Front National. Et eux, je ne les confondrai jamais avec ce qui s'est passé là-bas ces derniers mois.
Est-ce que Marine Le Pen travaillait ?
Mais oui, mais je ne suis pas là pour juger Marine Le Pen ou quoi que ce soit. Après que d'autres cadres aient oublié de travailler pendant des années dans ce parti.
Il a quitté un parti de fainéants.
Vous le savez,
un parti de fainéants.
Tous les journalistes le disent
en off.
Tous les journalistes le disent en off, ça. Et me le disaient depuis des années. Vous êtes un peu le seul à travailler, ça travaille pas beaucoup là-bas. Ça, je l'entendais tout le temps. Voilà, c'est tout. Bah oui, c'est vrai.
Ouais. C'est donc ça vous manque pas, ce parti ?
Non.
Non ?
Des gens me manquent. Des gens me manquent. Mais vous savez, j'ai entamé une tournée nationale en novembre et je vois beaucoup de monde.
Une tournée comme un chanteur.
Oui, c'est peut-être une déformation dans le terme. On va dire un tour de France des initiatives locales, puisqu'à chaque fois, j'étais à Calais d'ailleurs dimanche pour voir la situation migratoire. J'étais samedi dans l'Isère où on a fait une belle réunion publique et en même temps avec notre députée Mireille Dornano, députée européenne. Et en même temps, j'ai visité une maison de retraite et un EHPAD. Et oui, vous voyez comment on prend des types de langage avec l'air du temps.
Elle existait avant.
Oui, cette expression existe.
On évoque quelques sujets d'actualité. Rosine, le conflit dans les prisons. Est-ce qu'il faut, selon vous, un régime de détention spécifique pour les détenus radicalisés ?
Il faut les mettre à part, oui.
Parce que à part et ensemble ou à part
le moins possible ensemble et à part. Donc il faut des moyens, vous me direz. Oui, il faut construire quelques dizaines de milliers de places de prison en France. Pas simplement dû d'ailleurs à cette problématique de la radicalisation, c'est une vieille problématique française, c'est qu'on n'a pas assez de places de prison par rapport à la taille et au niveau de criminalité dans notre pays. Si on fait des études internationales, on se rend compte qu'il manque 30 000, 40 000 places de prison en France. Donc il faut investir. Et on va le faire d'ailleurs intelligemment, puisque la Cour des comptes, vous avez vu, a dit qu'il faut arrêter les partenariats publics-privés, ça coûte, pour les prisons, ça coûte une fortune. Donc il faut le faire directement, ça coûtera moins cher, mais il faut le faire. Et alors, le retour des djihadistes, puisque c'est une thématique avec l'effondrement de Daesh, dont on espère qu'il ira bien jusqu'au bout, ceux qui ne sont pas français, il ne faut pas les accueillir. Il faut qu'ils soient jugés là-bas, c'est-à-dire même s'ils risquent leur peau. Moi, ça me pose aucun état d'âme.
La France ne doit pas intervenir.
Non, ils sont.
Si l'un de ses ressortissants est condamné et sur le point d'être exécuté.
Non, à partir du moment où ce ressortissant, comme vous dites, a fait le choix d'entrer en guerre contre la France et des Français, il prend ses responsabilités. Et il est rejeté de la communauté nationale naturellement. D'ailleurs, s'il est binational, on le fait même juridiquement, on lui retire la nationalité française, et comme ça, il ne peut pas revenir en France. Ceux qui sont simplement français, donc qui reviendraient en France parce qu'on les voit revenir un beau matin, parce que vous savez, on a une grande passoire, un grand gruyère, donc on ne sait pas très bien qui rentre, qui part, on sait surtout pas qui rentre. On les découvre, on les met tout de suite en prison par sécurité, parce que ce sont des individus très dangereux. Et donc, on les met dans des lieux spécifiques dans les prisons. Mais pour cela, effectivement, il faut avoir des moyens et les sécuriser.
La loi immigration-asile de Emmanuel Macron fait des vagues, notamment sur le tri dans le centre de détention des migrants. Est-ce que.
Dans
les centres d'hébergement, pardonnez-moi, vous avez raison. Est-ce que là, il y a une forme de fermeté qui s'installe dans le pouvoir macronien ?
Non, pas du tout.
Non.
Ça, c'est ça. Alors ça, ce sont vraiment des vaguelettes qui, à mon avis, ont arrangé Macron parce que ça le fait passer pour quelqu'un de ferme. Et il a compris que l'opinion publique attendait de la fermeté sur ce sujet-là. D'ailleurs, opinion publique de droite ou de gauche, partout maintenant, il y a un haut niveau d'attente parce que le chaos est quand même puissant. Non, sa loi est une loi de continuité et les chiffres vont continuer d'augmenter. Ça fait 15 ans qu'ils augmentent, Sarkozy, Hollande, Macron... Ils augmentent parce que nous sommes un pays qui n'a pas de frontières et qui n'a pas sa souveraineté migratoire, sa souveraineté territoriale. qui n'a pas sa souveraineté nationale. Donc ça continuera d'augmenter. Ouais. Et ça, il faut comprendre que c'est pas des petites lois ou des petites circulaires pour agiter l'opinion publique qui changeront quoi que ce soit. Moi, j'étais à Calais dimanche. Il y a des migrants. Il y a des centres d'analyse des situations maintenant. Oui. Ben, il faut les y conduire, ils n'y vont
oui,
pas.
Oui, mais justement, est-ce qu'il ne va pas être un peu plus souple sur le droit d'asile pour être plus dur sur les migrants économiques ?
On peut difficilement être plus souple qu'on ne l'est aujourd'hui sur le droit d'asile. Hein. On a un taux d'acceptation de 40%, il y en a plus de 100 000 par an. Vous savez, au Japon, ils en ont accepté 15 l'an dernier. Hein. Un pays qui a deux fois plus d'habitants que la France, qui est plus riche que la France, ils en ont accepté 15. Je ne dis pas qu'il faille aller à ce genre d'extrémité, mais vous savez, même si on réduisait par 5 l'asile... Au regard des standards internationaux, on resterait un pays généreux.
D'un autre côté, c'est un peu compliqué d'aller au Japon de...
Alors moi, si vous voulez, je pense que sur cette affaire migratoire, c'est quelque chose que j'avais essayé de porter au Front National, ça n'a jamais été pris. Mais là, maintenant, je peux le faire aux patriotes. Je pense qu'il faut avoir une vision d'ensemble. Et il ne faut pas oublier que ces gens-là, d'abord, moi, je ne leur en veux pas. Personne n'est heureux de quitter son pays. Ce sont des gens qui sont, de toute façon, dans une détresse. Et qu'ils quittent des pays, des continents, l'Afrique, le Moyen-Orient... Et que nous avons, avec eux, avec ces pays-là, l'obligation d'agir pour être un peu plus efficace, même beaucoup plus efficace, par le co-développement. Mais un co-développement porté à 0,7 points du PIB, c'est ce que demande l'ONU, un co-développement efficace, précis, sur des projets extrêmement concrets, comme l'électrification, par exemple, de l'Afrique, et d'autres projets qu'on puisse évaluer, pas de l'argent jeté comme ça, qui va atterrir dans la poche d'un dictateur. Non, de l'argent qui aille vraiment à des projets. Et avec ces projets, on va fixer les populations sur place. Parce que je pense que tout le monde sur cette terre a envie de vivre dans son propre pays et de voir ses enfants heureux pouvoir vivre dans leur propre pays, ce qui n'empêche pas les voyages et tout ce qui est lié à la mondialisation, ce qui est très bien. Mais vivre et éviter de migrer et d'être dans les mains des passeurs et des mafias pour arriver dans un cul-de-sac en France, dans un campement, dans un bidonville, dans un centre d'accueil ou d'hébergement ou je ne sais quoi, ça sera toujours plus heureux.
Est-ce qu'il faut qu'il y ait des politiques de planning familial plus restrictives, enfin plus encadrées dans certains pays?
Mais il y a déjà des choses qui sont faites avec l'ONU sur ces sujets-là ou des associations. Et il faut continuer.
Est-ce que les programmes ne soient pas reciblés?
Il faut continuer à aider les gouvernements qui sont engagés dans ces programmes pour faire ce qu'on appelle la transition démographique, et quand elle n'est pas encore faite, bien sûr.
Est-ce que vous êtes favorable à la réforme des institutions à laquelle le gouvernement réfléchit, le président de la République? Un sondage publié il y a deux jours indique que les Français y sont, mais alors extrêmement majoritairement favorables. Il s'agit de réduire le nombre de parlementaires, députés et sénateurs, de limiter le nombre de mandats maximum. Mmh. Vous êtes favorable à tout ça?
Oui, je suis favorable à ce que nous ayons une seule assemblée, moi.
Vous êtes pour la suppression du Sénat.
Ouais, je suis pour la suppression du Sénat et une Assemblée nationale avec moins de députés que maintenant, peut-être 400, et élu à la proportionnelle intégrale, ce qui n'est pas dans le projet malheureusement, avec une prime majoritaire pour qu'il n'y ait pas trop de... Si vous voulez, qu'il n'y ait pas de problème lié à la proportionnelle intégrale, c'est-à-dire qu'on arrive... Parfois, on n'arrive pas à former des gouvernements à cause de ça. Oui. Donc on va corriger ce petit biais avec cette prime majoritaire, mais tout le monde sera représenté grâce à la proportionnelle intégrale, ce qui fera enfin respirer un peu la démocratie. Là, c'est étouffant. Mmh. Bien sûr que les Français, vous avez raison, ils sont très favorables, mais parce qu'ils étouffent. Quand il y a la moitié des gens qui ne sont pas représentés à l'Assemblée, qu'on voit des débats qui n'en sont plus, avec cette espèce de cohorte de députés en marche... qui savent même pas ce qu'ils font là, qui votent, qui appuient sur un bouton parce qu'on leur a demandé de le faire, qui n'animent pas le débat démocratique, qui pondent des rapports. J'ai vu Aurore Berger, excusez-moi, un député en marche, qui a pondu un rapport sur l'éducation.
Porte-parole du groupe La République.
Qui est la risée du monde enseignant. Moi, je suis fils de prof, je suis fils d'instit même, dans l'école publique. J'ai lu son rapport, mais c'est affligeant. On va aller faire des gâteaux à la noix de coco ou je ne sais quoi.
Elle a fait beaucoup de buzz sur Twitter.
Pas que sur Twitter, hein. Dans le monde enseignant, c'est énorme. Oui. Ou même les parents d'élèves. On va aller faire des gâteaux et puis ça va résoudre les problèmes communautaires dans les écoles. Et puis attention aux professeurs, ils doivent se mettre au niveau des enfants dans certains quartiers parce qu'ils ont un niveau de français trop élaboré. On est encore dans l'école de la République, là. Moi, je pensais qu'elle devait tirer vers le haut, cette école. Vous voyez, donc... Ouais. Suppression, je reviens aux institutions. Mais j'avais fait, excusez-moi pour cette petite digression, mais ça m'avait marqué ce rapport. Suppression du Sénat.
Attention à ce que vous dites.
Non, au contraire, renforcement des institutions par la suppression du Sénat. Et suppression des conseils régionaux et suppression des intercommunalités.
Juste dernière question. Avant de nous quitter. Quel est l'avenir, qui est l'avenir du Front National, Marine Le Pen ou Marion Maréchal Le Pen?
Je n'en ai absolument aucune idée. Moi, j'aimerais bien que Marine Le Pen soit tête de liste aux européennes, parce qu'on aurait de beaux débats, notamment avec elle. Je comprendrais peut-être enfin pourquoi elle a renoncé à combattre l'Union européenne.
Voilà, on s'arrête là. C'est la fin de cette émission. Merci Florian Philippot et on se retrouve la semaine prochaine.
Absolument, Frédéric. Et merci
beaucoup
à Charlotte Rientomaca et puis à Camille Nérand et bien sûr à toute l'équipe technique d'avoir préparé et...